Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement.
Nous devons savoir.
Pour enfin démêler l'actualité judiciaire dans le monde du sport.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches-Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
De Maître Sophie Mongeon, comment ça va?
Allô Sophie?
Ça va bien vous autres?
Très bien, très bien.
Ça fait déjà huit mois qu'on est dedans et qu'on t'appelle De Maître Mongeon.
Oui, bien écoutez, il y a eu un mois, au mois de septembre, qu'on a réussi à se voir en personne. Mais depuis ce temps-là, on est retourné dans nos habitudes de 2020, là, à distance. Mais c'est pas grave, c'est quand même agréable, puis on s'habitue, puis je pense que c'est notre nouvelle réalité. Alors, ça va être comme ça.
Salutations à nos collègues dans le milieu qui ont perdu leur emploi dans les dernières semaines. On a parlé des coupes à TVA Sport, mais ces coupures ont un nom maintenant, ont des noms, là, parce que vous voyez sur leurs différents réseaux sociaux ces gens de talent qui annoncent qu'ils quittent TVA Sport. C'est notamment le cas de mon ami Michael Lalancette, qui a grandi en suivant la même équipe que moi, les Saguenay-Chicoutimi, dans Saint-Georges-Vizina. Puis je me souviens très bien de cette belle époque où est-ce qu'on écrivait nos textes sur radoté.com, qui est un forum où est-ce qu'on parlait des succès et insuccès de notre équipe, puis on était en train de se bâtir un esprit critique de sport, puis on était ados, puis on aimait bien ça. Et d'ailleurs, il est encore passionné de hockey junior. C'est la référence au Québec, Michael Lalancette, qui a quitté TVA Sport, et ça a été le cas de d'autres également.
Ben oui, effectivement, TVA Sport a dû supprimer 17 postes, et quand même, c'est quand même beaucoup, ça. Puis on sait aussi que ESPN, par exemple, a mis à pied 300 employés et il a aboli 200 postes qui étaient à combler. Alors, tout ce qui affectait le droit du travail régulier, donc les employés en poste, là, le citoyen ordinaire, là, on voit que ça commence à affecter le sport, que ce soit au niveau des médias. Déjà, c'était une entreprise, là, un domaine qui était un peu en crise, en révolution. Donc là, on rajoute à tout ça les difficultés financières. Puis, tu sais, je pense que lors de la première vague, on avait bon espoir que ça passe puis que ça reprenne. Mais là, on constate qu'on est dans la deuxième vague. Moi, je le constate dans mon quotidien, octobre, et je vois pas de déconfinement avant le temps des fêtes, là. Fait que les entreprises ont pas le choix de se restructurer en tenant en considération le budget, puis aussi la nouvelle réalité de télétravail, là aussi, qui change un peu la donne, qui fait en sorte qu'on est capable d'en faire un petit peu plus qu'autrefois. Par exemple, moi, quand je devais me déplacer pour aller à la cour à Saint-Hyacinthe, ça me demandait une journée complète de travail. Mais maintenant, je peux donc faire mon audience le matin de mon bureau et être plus efficace dans l'après-midi. Donc, ça change un petit peu le travail comme tel, là.
Et plutôt à l'émission, Jean-André Marchand nous parlait de la présentation des reportages sur place. De moins en moins de personnel dans les télés américaines sont envoyés pour couvrir les matchs sur place. On a réduit parce qu'on ne peut pas entrer autant de monde. Donc, on décrit beaucoup, de plus en plus à distance, les événements sportifs. Gilbert et moi, qui avons vécu le sport sur le terrain de différentes façons, là, on ne pense pas que c'est une bonne chose à long terme pour le téléspectateur, mais à court terme, en tout cas, il y a des patrons qui font des économies avec ça.
Oui, ils ont des économies, mais c'est vrai qu'il y a moins de revenus aussi.
Oui,
c'est sûr. Fait que, je pense pas que c'est, comme on pourrait dire, la fin du monde. Je pense que c'est une restructuration. Je vous dis pas que ça va revenir, mais pour l'instant, étant donné que c'est tellement exceptionnel ce qui se passe, certaines règles de droit du travail, etc., commencent à être un petit peu plus discutées, là. D'ailleurs, ça m'amène à notre prochain sujet. Vous vous rappelez, il y a pas longtemps, là, je me rappelle plus du nom du boxeur, par exemple, on avait eu une discussion où Régent Tremblay avait parlé d'un contrat.
Oui.
J'avais dit, écoutez, c'est qui encore ce boxeur?
Canelo Alvarez, effectivement, son contrat de 11 combats avec DAZN pour 365 millions de dollars. Après 4 combats, voilà que c'est aux oubliettes. Il rompt les relations avec son promoteur Golden Boy Promotion de Scar de la Haya. Différent entre les deux hommes. On ne fait pas battre Canelo et donc il ne peut pas honorer son contrat. Et là, il poursuit son ancienne entreprise de promotion là, pour une somme avoisinant les 250 millions de dollars. Là.
Et c'est ça. Et ce que plusieurs entreprises peuvent invoquer actuellement, ça s'appelle la force majeure. Donc, quand tu peux, pour une raison, tu peux plus honorer ton contrat parce qu'il y a une insurrection, une guerre ou quelque chose d'exceptionnel, t'es pas obligé d'aller au bout de ton contrat. Et c'est ce qu'on commence à constater un petit peu dans le domaine du sport aussi. On sait que Mike Riley, en début de semaine, des Lions de la Colombie-Britannique, a déposé un grief contre la Ligue canadienne de football. Pourquoi? Parce qu'il y a un super bon contrat, effectivement, mais il y avait une somme garantie qui devait lui être donnée de 250 000 $.
Hey boy!
Oui, le contrat était significatif. Il donnait le meilleur joueur payé de la Ligue.
Oui.
Mais le pacte incluait une somme de 250 000 totalement garantie. Et là, le problème, c'est qu'on ne lui verse pas. Pourquoi? Je pense que c'est une question de finance et je pense qu'on va invoquer la force majeure parce que si je me trompe pas, depuis le mois de mai, tous les joueurs ont été mis à pied. Ben, il n'y a pas vraiment de...
Il n'y a pas de saison.
Il n'y a pas.
Il n'y a aucun revenu pour la Ligue canadienne. Il n'y a que des dépenses et les joueurs n'ayant pas joué. Puis, mais c'est ça, dans le football, il y a des montants qui sont garantis. Mais il faut regarder dans le contrat, Sophie, est-ce que...
Il faut qu'il soit versé, payé.
Et bien, le montant garanti, c'est un peu ça.
Oui, OK, là, je regrette, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont reçu de gros bonnies. Là. C'est toujours au 1er juillet. Là. Puis ces gars-là ont été payés
même. C'est rentré, oui.
C'est ça, là. Oui, mais ça, Gilbert, ce que tu dis,
c'est quand il a signé au contrat, on s'est entendu sur un montant, 250 000, mettons, le 1er juin 2020.
C'est un montant direct, c'est pas par versement de salaire. Là.
C'est ça, là.
Oui, je comprends ça, mais l'affaire, c'est que là, on n'est pas capable de lui verser. Puis celui qui avait signé son contrat en 2019 a démissionné de ses fonctions le 16 octobre. Puis on sait que le propriétaire des Lions, il est décédé il y a une dizaine de jours, là, David Bradley. Là.
Mais l'organisation reste en obligation de payer, là.
Ben oui, mais en même temps, rien ne vous empêche de faire faillite, là. Tu sais, on regarde là, les organisations comme Aldo, Reitmans, etc., qui ont fait des coupures ou quoi que ce soit. Quand tu te mets sur la protection de la loi sur la faillite, tu peux pas être saisi. Fait que tu sais, des fois, il y a des mécanismes qu'on constate dans le day-to-day, dans le quotidien aujourd'hui, qui commencent à s'appliquer au niveau du sport.
Ben, s'il y a des clubs de football qui commencent à faire faillite, par exemple, là, ça va faire mal. Mais là, c'est devant un juge, ça va se passer parce qu'il poursuit son équipe. Est-ce que ça se peut qu'un juge puisse décider, ben là, force majeure, la COVID et tout, ils n'ont pas de revenus, ils ne peuvent pas te payer, donc le contrat est...
Oui, mais c'est comme un paiement différent. Oui, mais c'est comme un paiement différé, ça, LP. Il faut faire attention, là, parce que il y a eu un hockey aussi. Regarde,
mais c'est pas un bonus, c'est un montant garanti sur son contrat.
Ouais, mais Mario Lemieux, là, lui, il avait un montant, tu sais, c'était différé, tout ça, puis les Pingouins, à un moment donné, là, dans les années...
Tu peux pas le payer.
Tu peux pas le payer, là. Fait que là, regarde, on peut pas le payer, fait que... Au lieu de faire faillite, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des parts dans le
club.
Mario Lemieux est devenu
propriétaire,
comme tu veux, mais tu sais, tu prends comme Carey Price puis Shea Weber, là, ces gars-là ont des montants garantis. Ça, c'est à la signature du contrat, c'est un bonnet.
Dans la LNH, 100% du contrat est garanti.
Mais ça se peut que dans la CFL.
Mais là, ici, dans ce cas-ci, c'est son montant garanti, c'est la portion de son salaire que s'il y a une saison cette année. Il est sûr d'avoir, même s'il se blesse au deuxième match,
c'est quoi
son montant
garanti? C'est peut-être
250 000 $.
C'est ça.
Ouais.
Il s'attendait à le recevoir, mais bien évidemment, cet été, il ne l'a pas reçu. Fait que dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déposé un grief. Un grief, c'est une façon de contester un refus ou une décision d'un employeur, parce que c'est la même chose. Donc, dans le fond, on refuse de lui verser cette somme-là. Il a déposé un grief via son association des joueurs. Voyez-vous, c'est ça la beauté de l'association des joueurs. Donc, c'est ce qui permet quand même une certaine protection. Fait qu'en plus, il n'est pas obligé de poursuivre au civil avec les dépenses que ça l'encourt. Au contraire, un simple grief fait en sorte que le dossier est ouvert et en contestation. Là. Puis on ne parle pas de milliers de dollars de frais d'avocat là-dedans. Là.
Sauf que ça, c'est un joueur. Hein? Puis t'en as des dizaines et des dizaines dans la ligue, des centaines. Si tout le monde se met à faire ça, il n'y a plus de ligue.
Oui, effectivement. Fait que là, on voit qu'il y a des choses qui vont changer dans les prochains temps à ce niveau-là. Et un employeur, qu'est-ce qu'il pourrait invoquer? C'est effectivement la force majeure. Là, il y a deux courants jurisprudentiels là, qui commencent à sortir des tribunaux. Là. Par exemple, je vais vous donner deux exemples par rapport à des bails commerciaux. Il y a des jugements qui ont été rendus, un en Ontario et un au Québec. Au Québec, le jugement a été rendu en disant que le gym qui louait, qui avait un bail commercial, n'était pas obligé de payer parce qu'il y avait effectivement force majeure. Donc, au Québec, ça a été un jugement. En Ontario, ça a été le contraire, où un juge a déterminé qu'au contraire, que la personne devait payer, puis que c'était pas une force majeure parce que c'était l'ensemble de la population qui passait à travers ce processus-là. Voyez-vous la distinction qui a été faite?
Oui, ben oui. Oui. C'est à gérer quasiment au cas par cas rendu là.
Ben, exactement. Fait que là, c'est ça qui s'en vient. Chaque grief va être différent. Oui. Chaque situation, chaque ligue, chaque association. Puis,
on vient d'ouvrir une canne de bile en calvados, là.
Mais ça.
Ben oui. Puis nos réflexions, je dis depuis un peu le début, nos réflexions de droit du travail habituel sont pas tout à fait... On pense pas à la même chose, là. Là, moi, je vois ça là, dans mon quotidien. Des gens qui sont en des postes restructurés, abolis et on leur propose des bonnes primes de séparation. Tu sais, je veux dire, une bonne prime de séparation, là, c'est entre 2 à 4 semaines d'année de service. Fait que si ça fait 10 ans que tu travailles dans une entreprise puis tu as un poste ordinaire, tu sais, tu pourrais avoir 20 semaines là, pour bonne chance, essayer de te trouver d'autres choses. Mais actuellement, les clients qui me consultent ont effectivement des bonnes offres de départ. Fait qu'on y a un gros changement dans le monde du travail. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer justement en janvier, février 2021, quand toutes ces primes de départ-là, où justement qu'on va voir là, que les entreprises sportives ne respectent pas leur engagement, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Là?
Mais les gens qui perdent leur emploi maintenant, là, sont-ils aussi bien traités que les gens qui perdaient leur emploi au début de tout ça, quand il y avait la PCU?
Oui, ils sont encore bien traités. Les employeurs le font avec respect.
Non,
oui,
mais au point de vue recours, là, point de vue salaire qui rentre de chômage, est-ce qu'on parle des mêmes sommes? Est-ce que c'est
non, on parle des mêmes mécanismes, c'est-à-dire si t'es congédié ou mis à pied ou quoi que ce soit, t'as accès à l'assurance-emploi. Si t'as pas accès à l'assurance-emploi, t'as la PCRE, effectivement, qui remplace la PCU. Fait que t'as accès encore à tout ça, là. Fait que ça, c'est pas problématique, mais tu sais, pour combien de temps encore? J'ai l'impression, tu sais, qu'on est un peu sûr. Comme le sport, on est en attente chaque semaine, c'est différent. J'entendais le ministre Dubé ce matin dire, écoutez, on peut-tu passer les 2 prochaines semaines, puis on va voir qu'est-ce qui se passe par la suite.
Mais ça, c'est les gens qui décident, là, qui sont dans cette posture-là. Imaginez-nous.
Ah ouais.
Exactement.
Moment présent,
là.
Moment présent. Maître Mongeon, merci beaucoup, et passez une très belle semaine,
Sophie.
Vous aussi, au revoir.
Bonne semaine.